Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Comment faire émerger une industrie financière africaine de classe mondiale? C'est le sujet que nous posons aujourd'hui dans Coémergence. Cela à l'occasion de la publication de la troisième édition du baromètre de l'industrie financière. Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Ramatoulaye Goudjabi. Elle est la directrice de l'AFIS, l'Africa Financial Industry Summit. Vous l'entendrez au cours de cette émission. Avant cela, dans les échos de la semaine, nous revenons sur la création d'une task force pour le rapprochement des communautés d'affaires entre le Maroc et la Mauritanie. Elle a été annoncée à l'occasion de la troisième édition du Forum économique Maroc-Mauritanie qui vient de se tenir à Nouakchott. Notre destination éco nous mènera au Niger, le Niger qui pourrait compter sur la reprise de sa coopération avec la Banque mondiale, surtout dans ce contexte de rupture avec sa communauté économique régionale, la CEDEAO. Tels sont les principaux sujets de coémergence. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, la troisième édition du Forum économique Maroc-Mauritanie s'est tenue au cours de cette semaine à Nouakchott. Cet événement a été placé sous le thème du partenariat économique et commercial, un partenariat économique et commercial novateur, durable et porteur d'un fort impact pour l'ensemble du continent africain. Cela tombe à point nommé, sachant que le chef de l'État mauritanien vient d'entamer son mandat d'un an à la tête de la présidence en exercice de l'Union africaine. À Nouakchott, il a surtout été convenu de créer une task force pour le rapprochement des communautés d'affaires entre le Maroc et la Mauritanie. Sur cette coopération, écoutons Chakib Lailej, il est le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, la CGM.
Nous sommes persuadés que la complémentarité entre le savoir-faire marocain et le savoir-faire mauritanien va créer une vraie dynamique qui va être une exemplarité pour la région, pour le Maghreb, pour l'Afrique, et une exemplarité continentale.
Et puis, sachez que la zone de libre-échange continentale africaine, la ZELECAF, offre de belles opportunités de développement et d'export au secteur automobile marocain, notamment dans l'approvisionnement en intrants à faible coût et de destination des exportations de produits finis. C'est ce que prédit un rapport présenté cette semaine à Casablanca. Il faut noter que le marché africain de l'automobile présente de belles perspectives et au niveau mondial, il faut le souligner, en 2022, le commerce automobile international a totalisé 1,6 trillion de dollars, ce qui dépasse ce qui est réalisé donc par le secteur du pétrole brut et du gaz naturel.
Coémergence, l'invité.
Il s'agit de Ramatoulaye Goudjabi, elle est la directrice de l'AFIS, l'Africa Financial Industry Summit. Avec elle, nous allons parler des moyens de faire émerger une industrie financière africaine de classe mondiale. C'est le sujet donc que nous lui posons. Bonjour à vous, Ramatoulaye Goudjabi, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, monsieur Oumar Baldé, et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, vous venez de publier avec Deloitte la troisième édition du baromètre de l'industrie financière. Alors, que dit ce rapport, Ramatoulaye Goudjabi?
Alors, ce rapport, je suis très contente de refaire ce baromètre à nouveau avec le cabinet Deloitte. Et ce baromètre, il montre qu'on a une industrie financière africaine résiliente, malgré les polycrises qui se sont succédées, la Covid-19, la guerre russo-ukrainienne qui a eu un fort impact sur les économies internationales. Et il montre donc que cette industrie financière est capable de résister aux chocs exogènes avec réalisme et pragmatisme. Et surtout, ce baromètre montre que 95% de nos leaders sont optimistes par rapport aux perspectives macroéconomiques à 3 ans. C'est le premier élément qui ressort de cette enquête. Il montre également que l'industrie financière doit faire très attention à sa gestion ALM, la gestion active-passif, à sa gestion des risques. Et encore une fois, et peut-être qu'on en parlera beaucoup plus en détail tout à l'heure, la cybercriminalité, tout ce qui est risque sécuritaire et tout ce qui est gestion du capital apparaissent comme éléments d'attention à apporter.
Oui, effectivement. Donc là, ce sont les premiers éléments, d'autres éléments certainement que vous avez à ajouter.
Bien sûr, j'ai d'autres éléments à ajouter. C'est en matière d'investissement, l'industrie financière se focalise de plus en plus sur tout ce qui est technologie de l'information innovante. C'est vraiment ce qui ressort, à la différence du précédent baromètre où on était un peu en retard, on était un peu des suiveurs. Là, on commence à devenir des leaders pour certains acteurs dans les technologies innovantes. Et malgré tout, par contre, on observe qu'il y a quand même un peu plus de prudence à l'égard de tout ce qui est intelligence artificielle. Mais on a certains leaders de l'industrie qui ont témoigné dans notre baromètre et qui utilisent cette intelligence artificielle, notamment pour de la notation interne, notamment pour avoir une meilleure connaissance de la manière dont les clients retirent, par exemple, leur argent. Donc, certains en trouvent les bénéfices, d'autres regardent donc ces nouvelles technologies avec prudence.
Alors, nous allons y revenir point par point, mais avant d'avancer aussi, je pense qu'il serait intéressant de rappeler à des profanes comme moi ce qu'on entend par l'industrie financière africaine.
Bien sûr. Alors, l'industrie financière africaine, telle que nous la définissons, ce sont tous les secteurs, donc que ce soit les banquiers, les assureurs, les fintechs, les acteurs des marchés de capitaux, donc les sociétés de gestion et d'intermédiation, les asset managers, les brokers, les acteurs de la bourse, donc les bourses, tout cela confondu, ainsi que nos régulateurs, donc quelques acteurs du secteur public, nos régulateurs, nos gouverneurs de banque centrale, voilà notre écosystème, les personnes qui ont répondu à ce baromètre. Voilà comment on définit l'industrie financière africaine au travers de ce baromètre.
Je pense que c'est intéressant à savoir, surtout d'identifier ces acteurs et savoir dans quel secteur ils exercent. Alors, vous parliez tout à l'heure de ce virage vers l'industrie de la technologie. Alors, quels sont aujourd'hui les pas qui sont réalisés ou réalisables par cette industrie financière africaine dans ce domaine donc du numérique?
Alors, ce qu'on a vu dans ce baromètre, c'est qu'on a des acteurs financiers qui confirment une certaine ambition vers la technologie. Et ils ont accéléré, ils ont aussi lancé plusieurs chantiers. Une part importante a été dédiée dans la mise en œuvre ou dans la quasi-finalisation de projets qui portent sur le cloud. Il est important maintenant pour l'industrie d'avoir des clouds. Donc ça, c'est à peu près 33% des répondants. Il y a aussi tout ce qui a trait au capital humain. Donc, la formation interne, c'est ce dans quoi l'industrie investit énormément en 2022, pour 23% des répondants, par exemple. Et tout ce qui est plateforme de e-learning ou tout ce qui est outil de travail collaboratif. Donc, capital humain et tout ce qui est projet sur le cloud sont les investissements majeurs technologiques.
Alors, est-ce que cela est imposé par, la force des choses? C'est une tendance ou plutôt c'est un choix, fait par ces acteurs pour asseoir cette industrie financière?
C'est un choix qui a été fait par l'industrie financière parce que c'est une question qu'on a posée l'an dernier, pour revenir un peu sur cette question, c'est une question qu'on a posée l'an dernier aux acteurs et on a vu qu'on était vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on était des suiveurs, on était même très en retard. Aujourd'hui, le choix est fait vers ces nouvelles technologies parce qu'on a vu qu'elles nous apportaient tout simplement et qu'elles avaient un réel impact économique et même de productivité pour l'industrie. Donc, non, c'est un véritable choix qui est fait par nos acteurs.
Alors, cela dit, sur le plan géographique en Afrique, parce qu'effectivement, à chaque fois, on le rappelle, qu'il n'y a pas qu'une seule Afrique. Le rythme n'est
Oui.
pas toujours le même entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, que l'on soit en
Tout à
Afrique
fait.
australe ou en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Nord. Sur le plan géographique, quelle cartographie avez-vous pu déceler à travers cette industrie financière africaine dans son virage numérique?
Alors, c'est une question qui est très intéressante et qui va nous amener très certainement, Monsieur Omar Baldé, à avoir justement une tendance un peu plus géographique. Malheureusement, on n'a pas pu déceler le nombre de répondants par région, mais c'est certainement une question qu'on va aborder parce qu'effectivement, on a des répondants de toutes parts et je n'ai pas cette, comment on dit, ce breakdown, cette segmentation géographique. Et donc, j'espère que c'est quelque chose, c'est une question à laquelle nous pourrons répondre l'année prochaine.
Alors,
Mais vous avez tout à fait raison, parce qu'on voit bien qu'il y a l'Afrique, si on coupait la carte de l'Afrique en plusieurs segments, on a les pays du Maghreb, où on voit bien qu'on a des leaders en termes d'activités bancaires, activités d'assurance et en termes de marché de capitaux. Je vais citer le Maroc, par exemple, qui se situe en très bonne position dans le top 5 des acteurs de l'industrie financière qui performent très bien dans le secteur de la banque, de l'assurance, et c'est quand même la deuxième bourse continentale. D'ailleurs, pour ne citer que cette agence de notation, Moody's, a récemment confirmé les perspectives du secteur bancaire marocain il y a une semaine en montrant sa résilience et sa capacité à présenter des fondamentaux financiers solides dans l'ensemble des industries que je viens de citer. En revanche, la perspective de la zone UEMOA, qui est fragilisée par la sortie de la CEDEAO de certains acteurs, les perspectives de son secteur bancaire ont été mises sous ont été mis, ont été déplacées de stable, dégradées de stable à négative. C'est aussi le cas au Nigeria. Non, pas au Nigeria, excusez-moi. Le Nigeria a vu le secteur bancaire, sa perspective revue de stable à positive, ce qui est plutôt bien au vu des améliorations qui sont portées par le président, tant que sur le plan de la gouvernance de la Banque centrale que sur le plan du secteur bancaire. Donc, c'est quand même des éléments positifs. Et puis, l'Afrique du Sud, qui est quand même le leader de l'industrie financière, tout secteur confondu, a aussi vu, comme le Maroc, ses perspectives se maintenir à stable compte tenu de la résilience de son secteur, de son industrie financière. Donc, vous le dites très bien, il y a plusieurs vitesses et c'est confirmé aussi par les agences de notation internationales.
Des agences, comme vous le rappeliez, ont donc, comme Moody's, qui a donc noté le secteur financier donc marocain. Alors, justement, vous êtes extrêmement active, on vous voit partout à travers le continent dans votre secteur. Alors, nous sommes, allez, on est déjà presque à la fin du deuxième mois de 2024. Quelles sont les perspectives d'évolution que vous voyez pour l'année 2024, justement, dans votre secteur?
Alors, sur l'industrie financière africaine, moi, ce que je vois et ce qui a été amorcé, c'est quand même le changement du paysage africain. Le paysage africain est en train de changer de par la sortie, l'accélération du départ des grands acteurs internationaux, notamment Standard Chartered, BNP Paribas, Société Générale, qui ont vendu certaines de leurs filiales, lesquelles ont été rachetées par des acteurs locaux, voire régionaux, qui sont en train d'étendre leurs franchises régionales et, je l'espère, deviendront des champions continentaux, voire internationaux. C'est le cas de Vista Bank, c'est le cas de Coris, c'est le cas de BGFI, c'est le cas de AFG, pour ne citer que ces banques-là, mais aussi des quelques banques nigérianes comme Access, comme Zenith, qui sont en train d'augmenter leurs franchises pour devenir des acteurs panafricains, non pas que dans les zones anglophones, mais aussi dans la zone francophone. Donc moi, je vois, en tout cas en termes de perspective, je vois en tout cas un accroissement de groupes panafricains, un accroissement des franchises, allez, on va dire oui, un accroissement des franchises de ces groupes. Et c'est très important, je pense, pour l'industrie financière africaine d'avoir des groupes panafricains qui exercent à l'échelle internationale. La deuxième chose que je vois, et que j'espère pour cette industrie, parce que le régulateur a demandé aux banques de relever leur niveau de fonds propres de 10 millions à 20 millions, par exemple, pour la zone UEMOA et également pour la zone CIMA. On a demandé le relèvement des fonds propres à 5 milliards de XOF. J'espère qu'on assistera à un phénomène de fusion, peut-être d'acquisition, beaucoup plus important pour ces deux secteurs, les banques et les assurances, et qu'on aura des groupes un peu plus solides, capables encore de résister à ces chocs exogènes. On a vu que cette industrie financière a été résiliente malgré ces polycrises. 2024, l'inflation est encore là, on le sait. Les polycrises ont eu leur effet. Elles ont engendré un ralentissement du crédit. Elles ont engendré malheureusement des problématiques de liquidité et de refinancement. On a vu quand même quelques États qui ont réussi à émettre des eurobonds. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas du Bénin. J'espère que, en tout cas, que ce soit les banques, que ce soit les États, qu'on aura une industrie qui arrivera à se refinancer et à jouer son rôle de financeur de l'économie, donc des PME. Donc j'ai bon espoir que malgré les difficultés qui ont pu naître ou qui ont perduré en 2023, qu'on ait une industrie qui reste résiliente et qui soit capable de financer l'économie réelle. Et en termes de résultats, j'ai l'impression que ça a bien démarré pour les assurances et pour les marchés de capitaux, toute industrie confondue. Je sais que ça a été très, très compliqué pour tout ce qui est fonds de private equity. Bon, on va dire que voilà, l'industrie devra s'accrocher, renforcer ses fonds propres, faire en sorte de bien générer du capital en interne via la mise en réserve de leurs résultats, tout en continuant à financer cette économie sans trop ralentir la production de crédit. Donc, c'est tout ce que je souhaite à notre industrie dans ce contexte qui est compliqué.
En tout cas, je pense que vous avez bien ouvert les perspectives. Merci à vous, Ramatoulaye Goudjabi. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'AFIS, l'Africa Financial Industry Summit. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie, Monsieur Baldé.
Zoom Express.
La Russie peut-elle économiquement être utile à l'Afrique? Pour répondre à cette question, nous recevons l'économiste Elkitenge Lubanda. Bonjour à vous, Elkitenge Lubanda, et merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir de vous parler.
Alors, la question est simple. Est-ce que la Russie a quelque chose à apporter économiquement à l'Afrique?
D'abord, il est une erreur majeure de considérer que la Russie peut agir en tant que force unique. La Russie agit dans un cadre beaucoup plus global qui est celui du BRICS. Ça veut dire dans son alliance avec le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud et l'Inde. C'est de cette manière que la Russie choisit d'agir, même lorsqu'elle ne se présente toute seule. Donc la Russie est dans un bloc qui désire créer une nouvelle tendance international pour créer une nouvelle géopolitique. Et c'est dans cette géopolitique qu'une géoéconomie va venir. Et bien entendu, la Russie a des armes pour jouer. Vous savez, la question des produits pétroliers, mais également et surtout la question céréalienne, et dont on pense que ça ne touche que l'Afrique. Non, ça touche l'Afrique et l'Europe. Et aujourd'hui, tout le monde sait très bien que l'économie mondiale est complètement perturbée. La Russie se trouve être parmi les clés de la solution. Une des choses que la Russie ne rate pas de faire, c'est de arranger les questions économiques, mais directement avec les questions militaires. Parce que la Russie est très consciente que la faiblesse africaine sur certaines choses est essentiellement militaire. Et ils viennent donc avec les deux armes.
Alors, cela dit, quand on regarde le niveau des échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique, hein, ces échanges ne dépassent pas, le volume de ces échanges ne dépasse pas 18 milliards de dollars. Alors, quand on compare avec la Chine, on est à plus de 280 milliards. Quand on voit avec l'Union européenne, on dépasse les 250 milliards. Alors, finalement, la Russie semble être une sorte de nain économique en termes de relations avec l'Afrique.
Vous devrez faire deux fois plus attention. Vous savez, il y a un certain nombre de bénéficiaires des produits économiques russes qui ont commencé à boycotter les produits russes, en l'occurrence toute la partie Europe occidentale. Et donc, il y a une certaine redistribution de ces produits. Un des premiers consommateurs se trouvait être la Chine, mais le prochain, c'est l'Afrique. en fait, on va avoir une redistribution des échanges commerciaux dans le monde et la Russie va certainement, parce que finalement, la quantité de produits et des biens et services sur la planète restant égale par ailleurs, si on change de source d'approvisionnement, il va falloir que ce qui est disponible aille là où il y a un creux. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous êtes rendu compte que la Chine a commencé à acheter des produits russes et à les revendre. C'est une espèce de blanchiment économique.
Quand vous parlez de ces secteurs potentiels, au-delà de ce qu'on a cité depuis à savoir les hydrocarbures, les céréales et autres, et les armes, bien évidemment, quels sont les autres secteurs potentiels sur lesquels ces relations peuvent se développer?
Il faut retenir, et je l'ai dit tout à l'heure, que la Russie est un pays très avancé en matière de technologie, que ce soit les technologies de l'information, la cybercriminalité russe est reconnue comme étant une des pointes, mais également toutes les grandes industries de l'armement, du transport, mais également toutes les technologies de construction. La Russie est une puissance, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Et la Russie a de l'espace pour être en mesure de se développer sur le continent, y compris dans le secteur minier.
Dans le secteur minier. Alors, cela dit, pensez-vous que dans ce contexte de sanctions occidentales, dans ce contexte de limitation des capacités de commerce avec la Russie, les pays africains peuvent en tirer bénéfice de ces largesses-là?
Vous savez, les sanctions économiques européennes, tout le monde en rit maintenant parce qu'on s'est rendu compte que ça ne provoque des effets négatifs que sur le continent européen. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, avec cette nouvelle tendance de la coalition BRICS, le nouveau dilemme commence à porter de plus en plus de sympathie. Il y a beaucoup de pays qui se déclarent de plus en plus s'approcher du BRICS. En fait, nous sommes à une période où les gens se révoltent contre l'injustice permanente qu'a été le dollar en tant que monnaie monolithique. Et je crois que cela donne des couloirs d'accélération à la Russie pour proposer, dans un concert avec les autres pays, des alternatives au continent. Je crois simplement que la géopolitique mondiale est en train de changer. Elle va changer très rapidement.
Alors, quels sont selon vous aujourd'hui les pays africains qui sont les plus disposés, qui ont plus de... disons, d'atouts et de prédispositions pour mieux commercer avec la Russie?
À mon avis, l'un des pays qu'il faut regarder correctement, c'est l'Afrique du Sud, qui est d'ailleurs partenaire dans le cadre du BRICS, mais également le Nigeria, qui est la première économie du continent. À côté de ça, il faut regarder les pays qui sont déçus du comportement occidental, dont l'Algérie. Et si nous prenons l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud, on a traversé tout le continent.
En tout cas, c'est intéressant. Alors, cela dit, vous parlez des BRICS, justement. Aujourd'hui, comment les pays africains peuvent davantage tirer profit de ces BRICS-là?
La première des choses qu'il ne faut pas commettre comme erreur, c'est de faire exactement la même chose comme avec l'Occident à l'époque, où l'Afrique s'est conduite comme un enfant, comme un irresponsable, à qui on venait proposer des projets de développement. Bien sûr, quand quelqu'un te met dans son plan, c'est pas pour toi, c'est pour lui qu'il te met dans son plan. Il est important que l'Afrique, de manière globale, et les pays africains, de manière séparée, se dotent de leur propre plan de développement et leurs besoins. Et ceci dit, ils devraient établir des relations adultes avec les BRICS pour que la relation financière ne dépende pas de la relation géopolitique. Et parce qu'il ne faudrait justement pas qu'on remplace une monnaie de domination par une autre monnaie de domination, une autre économie et une autre finance de domination par une nouvelle finance de domination. Il est donc important que le réveil au niveau de la conscience et de la responsabilité des pays africains leur donne un statut d'adulte, des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui accèdent à des moyens économiques et financiers pour réaliser leur agenda. Et aujourd'hui, l'agenda, c'est le développement du capital humain, c'est la compétitivité.
Intéressant à entendre. Merci à vous, Elkitenge Lubanda. Je rappelle que vous êtes donc économiste spécialiste de l'Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Destination Éco.
Notre destination éco nous mène au Niger. Le Niger qui pourrait compter sur la reprise de sa coopération avec la Banque mondiale, surtout dans ce contexte de rupture avec sa communauté économique régionale, la CEDEAO. Compte rendu Depuis Niamey avec notre correspondant Jean-Djibril William.
C'est une véritable bouffée d'oxygène qui intervient pour le Niger, quelques semaines seulement après son divorce annoncé avec la communauté des États membres de l'Afrique de l'Ouest, toujours sous le coup des sanctions régionales prononcées au lendemain du coup d'État du 26 juillet. Le pays peut désormais compter sur normalisation de ses relations avec la Banque mondiale, une reprise du partenariat clairement exprimée par la délégation de l'instance internationale venue à Niamey opérer une évaluation préalable de la politique opérationnelle du pays.
Nous sommes là avec la ferme volonté et la détermination de pouvoir résoudre avec vous tous les obstacles qui restent pour une reprise totale des programmes de la Banque mondiale au Niger. Comme vous le savez, l'évaluation OP730 est un processus formel de vérification sur le terrain que certains critères clés sont réunis aussi bien pour la reprise des déclassements pour les financements en cours que pour l'engagement de nouveaux financements.
À travers cette reprise annoncée de la coopération, la Banque mondiale compte soutenir les aspirations légitimes du peuple en matière de développement et de lutte contre la pauvreté. Mais à Niamey, difficile d'oublier la position affichée il y a 7 mois par l'instance internationale qui s'était alors alignée sur les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger.
Une occasion de ce genre est importante pour qu'entre partenaires, nous puissions nous dire un certain nombre de vérités. Je ne crois pas avoir rencontré dans les textes de la banque des mesures de ce type qui viennent soutenir une fermeture de frontières et qui viennent soutenir une sanction punitive allant jusqu'à des sanctions sur des produits de première nécessité. Ça a été un choc pour nous.
Cette normalisation, si elle se concrétise, devrait néanmoins permettre une reprise totale des programmes de la Banque mondiale suspendus depuis le coup d'État du 26 juillet. De quoi permettre la poursuite de projets cruciaux de développement pour le Niger, de même qu'un accès rétabli aux prêts et financements de l'institution internationale.
Merci à vous, Jean-Djibril William, correspondant de Medi 1 à Niamey, au Niger. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medi 1 Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medi 1 et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.